Interview.
107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr, l'interview du jour en compagnie de André Duny. Bonjour.
Bonjour.
Tu es le fondateur de la CEN, C-E-N. Est-ce que tu pourrais nous rappeler ce que c'est pour les auditeurs qui n'ont pas suivi attentivement les émissions, puisque tu es déjà passé quand même quelques fois sur Radio Diwa, hein?
Bah, la CEN, ça a été créé comme une coordination des éducations nouvelles dans l'Ain. Donc c'était plutôt Mouvement Freinet, GFEN, AFL, bah, tout ce qui bouge un peu dans l'éducation, hein. Moi, je rappelle que j'ai été sanctionné par le recteur de Lyon pour refus de noter mes étudiants, dans des bagarres pour faire échapper un petit peu les pratiques scolaires à l'emprise, on va dire, du libéralisme classique, hein. Chacun sa petite note, son petit classement et sa petite compétition, son petit concours, son petit examen, pour être des bons soldats du système d'un côté et de l'autre, bah, pour être des perdants convaincus à jamais d'être des nuls. Alors donc, c'était d'abord une coordination des éducations nouvelles. Et puis, ça a évolué. On s'est rendu compte qu'on avait du mal à joindre les parents d'élèves, en tant que tels, organisés ou pas. Et du coup, moi, j'ai fait évoluer ça en coordination de la nouvelle éducation populaire. Pourquoi nouvelle éducation populaire? Parce que l'ancienne éducation populaire a un peu failli, elle s'est enfermée dans les murs, enfin c'est pas de sa faute, hein. C'est gouvernementalement parlant que si on suit les conves gesticulées de Franck Lepage, on se rend bien compte que l'éducation populaire, personne n'en a voulu à la libération, les communistes ont fait échouer, et bien entendu les gaullistes et la droite encore plus pour ce qui était proposé, à savoir faire avec les arguments artistiques ou théâtraux ou cinématographiques des films ou des pièces ou des animations qui aident les gens à prendre conscience de la nocivité du système dans lequel on est. Donc la nouvelle éducation populaire, c'est prendre conscience de comment le capitalisme ravage nos vies, nous aliène. Et quand je dis nous, je parle d'abord des milieux populaires, parce que les classes moyennes en profitent largement, puisqu'il y a encore 160, 180 députés enseignants. L'essentiel, c'est des cadres. Je rappelle qu'il y a zéro ouvrier député sur 577. Il y en a à peine 7 qui sont employés. Et ces deux catégories représentent à elles deux les deux tiers de la population active. On n'est pas en démocratie, on est en oligarchie, en plutocratie, si on voit les liens avec les milieux industriels et bancaires, hein. Je rappelle qu'Emmanuel Valls était au groupe de Bilderberg. Le groupe de Bilderberg, c'est un groupe de banquiers et de députés de différents pays chargés de gérer au mieux les évolutions politiques et culturelles en faveur du libéralisme. Donc on a ce qu'on a voulu ou pas voulu. Et du coup, la nouvelle éducation populaire, bah, c'est ça, c'est prendre conscience que dans quel système nous sommes en matière de démocratie, non-démocratie. Donc il y aura dans nos rencontres d'été une journée « Sommes-nous en démocratie ?» avec la conférence gesticulée, théâtralisée de Rochex, de Chambéry, avec la délicieuse Mathilde. Donc ça sera matinée du dimanche, la journée du dimanche est consacrée à la démocratie, mais on y reviendra parce que nos quatre journées de rencontres d'été, Drôme, Ardèche et Rhône-Alpes, se trouvent à la jonction des deux départements, à Saint-Laurent-du-Pape, 11-14 juillet. Donc je disais ça parce que le système, ça comprend à la fois un système politique, donc qu'il s'agit de dénoncer comme étant totalement aristocratique et pas du tout connecté aux besoins, aux désirs et aux co-décisions avec le peuple. On entend par peuple, hein, deux choses, hein. D'une part les milieux populaires et d'autre part la souveraineté populaire, c'est-à-dire le droit du peuple de gouverner quand on est en démocratie. Ben, on en est loin. Et le système, c'est aussi système économique. C'est inutile de faire un dessin à tout le monde puisqu'on voit bien quel ravage ce système économique produit au niveau de l'économie casino, de la spéculation financière, des paradis fiscaux, des détournements de fonds et comment il peut acheter les élus comme on achète une savonnette de gauche ou de droite. Tout le monde a bien compris que le système économique est en train de ravager la planète. Hein. Je cite souvent, et c'est sur notre site, 90 entreprises mondiales sont responsables des deux tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Le réchauffement climatique qui crée des tempêtes, qui crée des inondations, qui crée des intempéries de plus en plus graves, qui fait reculer les côtes, qui fait monter de 70 cm l'eau de mer, qui fait évacuer des îles, qui fait qu'au Bangladesh, il y a deux ans, ils ont passé 4 mois sous des pluies diluviennes, qui fait qu'au Kenya, s'étend sans une goutte de pluie et qui fait qu'à Cornas, là, j'ai eu 35 degrés pendant je ne sais pas combien de jours. On a eu un seul jour de pluie, ou trois jours de pluie plus exactement, puisqu'il y a eu les deux pluies dernières, en quatre mois, qui fait que dans mon jardin bio et avec 17 tonneaux, ben, je n'arrive pas à les remplir, je n'arrive pas à arroser sans l'appoint de l'eau communale. Ce n'est pas normal du tout ce qui se passe, c'est un réchauffement accéléré. Tout le monde tire la sonnette d'alarme et pendant ce temps-là, Poutine développe avec ses multinationales russes Gazprom un max de gaz et de pétrole, des torchères géantes. Bien entendu, Total fort le plus possible pour trouver de nouveaux gisements à 6000 mètres de profondeur. Exxon américain développe le gaz de schiste qui ravage le climat parce qu'on laisse beaucoup dégager de méthane qui est 22 fois plus puissant que le CO2. Bref, on voit bien ce que c'est que le système économique. Donc, le système, c'est l'économie. C'est la politique qui est aux mains de cette économie. Je rappelle, hein, face à Sarkozy, le Nouvel Obs a lancé Ségolène Royal en disant si c'était elle. Alors, le Nouvel Observateur, c'est l'actionnaire majoritaire, c'est la banque Rothschild. Voilà comment on fait la politique en France. On fabrique les candidats, on fabrique les élections. Les médias, bah, je ne raconte pas qui est propriétaire du Figaro, etc. Pour ce qui est des chaînes publiques et des journaux, eh ben non, il n'y a plus de journaux publics. Hein. Je vois aucun journal public. Tous les journaux sont sous contrôle direct, sauf Silence, sauf L'Âge de Fer, sauf Le Monde Diplomatique, sauf Le Canard Enchaîné. Je recommande chaudement ces journaux. Mais en gros, la presse, à 92-13%, est sous contrôle direct des puissances financières qui possèdent les moyens de cette production intellectuelle. Voilà, donc le système, c'est aussi cette production intellectuelle médiatique, c'est la publicité, 700 milliards de dollars, ça a un peu baissé avec la crise, par an consacré à développer le fait qu'il fallait que nous mangions gras, sucré, salé, mais dessous c'est marqué ne mangez pas gras, sucré, salé. Mais ce qu'on vous propose, c'est gras, sucré, salé. Si c'était que gras, sucré, salé, ça serait pas grave, c'est que c'est surtout pesticidé, plein de métaux lourds, bref, que l'intoxication chimique, elle est largement. Voilà, c'est un petit tour d'horizon qu'on fait souvent, la scène, hein. On est une association globale, et à déclinaison locale et à déclinaison sectorielle, donc voilà.
Justement, cette dimension locale, parce que là, André Duny, tu as tapé un peu dans tous les sens et dans tout ce que le capitalisme a produit de pire, hein, sur notre planète, mais sur ce plan local, justement, n'est-il pas un peu le temps de mettre en avant des initiatives de proximité et peut-être même le fait qu'il y a un moment donné, il ne faudra plus être dirigé par Paris ou par ces grandes puissances ?
Ah, c'est formidable ta question. C'est exactement ce qu'on propose sous l'ordre énergétique depuis 2007, où j'ai fait un texte, rendre Valence à sa campagne, rendre Valence à son fleuve, et rendre Valence à son peuple, et rendre Valence à son avenir. Et bien, sur le plan énergétique, on proposait 300 éoliennes sur le Rhône, avec un lac, un grand lac au col des Limouches, à 900 mètres, pour que Valence, partie service public, fasse une régie municipale d'énergie. Bon, je pense qu'on a été les premiers. Une proposition de la nouvelle éducation populaire, ça signifie simplement qu'au niveau local, on peut tout à fait, avec les puissances de la collectivité territoriale publique, faire des parcs éoliens publics, faire des parcs biogaz publics, faire des captations d'eau courante comme cela se fait à Romeyère, Verdi, capter de l'eau courante et en faire de l'électricité communale. Ça se fait aussi dans la vallée de la Roya, ça se fait dans d'autres endroits. Grenoble, après le succès aux élections municipales de listes qui étaient à la fois société civile et un peu front de gauche, Europe Écologie, ils ont réussi à faire l'unité là-bas alors que partout ils se bouffent la couane. C'est quand même très intéressant puisqu'ils veulent aller vers une régie communale d'énergie, de production d'énergie électrique. Ça, c'est fabuleux. Ben, tu as raison. Première chose, dans le domaine énergétique, nous pouvons prendre pouvoir. Ben, en France, c'est Montdidier. Hein. Montdidier, c'est la mairesse a acheté 4 éoliennes. Et actuellement, elle a 500 000 euros net de bénéfices par an, dont elle se sert pour isoler chez les vieilles gens à un tarif défiant toute concurrence, puisque la commune prend en charge une partie du double vitrage et de l'isolation des plafonds. Ça permet des investissements sur les HLM municipaux pour mettre du chauffe-eau solaire. Puisque les chauffe-eau solaires, les gens croient que c'est uniquement pour prendre des douches chaudes. Non, pas du tout, c'est pour mettre dans les radiateurs. Et même on peut accoler aux HLM des réservoirs d'eau chaude qui fait que cette eau chaude qui monte à 90 degrés au mois d'août, et on stocke cette énergie, cette eau chaude, ça permet de chauffer dans les HLM gratuitement jusqu'à Noël. Puisqu'à Noël, l'eau est à 15 degrés, ça permet encore de tempérer. Voilà. Il y a 10 000 solutions en énergie qui permettrait en régie municipale, en régie publique, territoriale, de fabriquer notre propre énergie, et ce, mieux que le capitalisme coopératif participatif, consiste à créer une cigale, d'acheter un biodigesteur à plusieurs et d'avoir 3-4% de revenus sur ce biodigesteur, propriété de citoyens. Ça, c'est ce qu'on appelle l'énergie citoyenne. Nous, on veut une énergie publique. Et ça renvoie directement à ta question, comment on fait dans les territoires pour que les élus ne fassent pas mettre des éoliennes, comme on le voit beaucoup par ici, fassent mettre des éoliennes sur leur terrain à eux pour ramasser la manne des taxes, puisque ces éoliennes étant propriété des multinationales capitalistiques, hein, comme Suez, ils installent la plus grosse éolienne possible pour ramasser le max de pognon sur le vent qui souffle dans nos régions. Et ils laissent bien sûr la taxe, les centimes additionnels, la taxe professionnelle, ils la laissent aux communes ou ils la laissent aux propriétaires du terrain. Et il y a beaucoup de gens, je ne vais pas citer de noms, qui font installer ces éoliennes sur leur propre terrain pour ramasser jusqu'à 10 000 euros de manne par an sans rien foutre, évidemment. Non, pas ça du tout. Ça veut dire que si on fait de l'énergie, transition énergétique publique, comme un bien public, comme un bien commun, qui permettrait d'échapper au capitalisme et qui surtout permettrait de faire énormément d'économies pour la commune, au temps où l'État n'est plus en grande capacité de donner des dotations, eh bien, il faut le faire en démocratie directe. Et là, je ne te fais pas un dessin, puisque vous avez déjà interviewé nos copains de Saillant.
Eh oui, Saillant. Voilà.
Alors, je disais 140 personnes, bah, il paraît que c'est 220 maintenant. C'est un moment que je n'ai pas eu mon copain Fernand.
Ouais, ça augmente.
Il paraît que c'est 220 personnes qui font en 8 commissions l'ensemble du budget et des projet de la commune de Saillant, 1150 habitants. Voilà le modèle pour dit, en espérant que dit les habitants, si on fait plusieurs émissions avec vous, on en a fait des dizaines sur cette idée de démocratie directe et il n'y avait rien. Rien en Drôme-Ardèche. Et puis d'un coup, voilà que Saillant, qui a bagarré depuis des années pour protéger les terres agricoles, et ça sera le troisième volet, agriculture, alimentation, hein, territoriale, ben, ils se sont mis en démocratie, en vrai, et alors là, quel bonheur. Voilà. Donc là, ça y est, on les aura pour nos animations. Alors pas dimanche, parce qu'ils gèrent les feux d'artifice à plusieurs élus qui coordonnent aussi ces commissions. Donc on les aura pas dimanche, mais on les aura soit samedi, soit lundi. Alors le second jour, par rapport à ta question, je vais assez vite, puisque les rendez-vous qu'on peut donner aux gens sur une radio, c'est de venir nous voir. C'est pas d'écouter le baratin d'André, hein, qui cause bien, paraît-il, mais bon, ah, tout le monde cause bien, hein, c'est pas, ça n'a rien à voir. Il faut venir voir les copains qui bossent et qui vont vous proposer une dizaine d'ateliers au choix par jour.
Alors, attends, André, avant qu'on rentre vraiment dans le programme, je voudrais juste qu'on termine un tout petit peu, parce que là, j'ai presque reçu une perche en pleine poire. À Saillant, ça a marché. Je sais que la CEN, toi-même, vous êtes relativement actif, donc tu l'as cité dans des villes comme Valence, mais aussi comme Cré, et puis bien sûr à Lyon. Est-ce que ces gens-là vont bouger comme Saillant? Pourquoi est-ce que c'est si long? Est-ce que tu vois une évolution depuis le temps que tu es en activité avec la CEN? Est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience ou alors est-ce que ça semble être un peu compromis?
Hélas, sublime radio de Radio Diwa qu'on adore. Ben simplement, je réponds à ta question que je suis désespéré. Hein. Sur Lyon, c'est pas évident. Là, on a créé un réseau SEN. On espère qu'on va bien brasser. On a fait deux soirées qui ont fait le plein à la maison d'écologie. Mais c'est pas avec ça qu'on va bouger. Voilà, il faut, on veut s'associer avec les colibris, on veut s'associer avec plein de gens hein, qui font des choses et qui se bougent. D'ailleurs, je crois que notre prochaine initiative, on la fera pas tout seul, on la fera en préparant avec toutes les associations. Mais là, on a déjà au moins 10-12 associations qui vont faire soit des ateliers, soit être associées au débat du vendredi soir. Ben non, ça bouge pas tant que ça. Effectivement, parce que nous avons été, comment dire, la tête vraiment colonisée par l'idée que la démocratie, c'était le vote. Or, le vote, c'est l'acte par lequel on abandonne tout pouvoir d'intervention, puisqu'on confie aux élus le soin de prendre toutes les décisions. Et après, on va qu'à nos affaires personnelles. Oui, c'est vrai. Nous avons la tête tellement prise dans un étau qu'on n'arrive pas à comprendre que, depuis des centaines d'années, et ça commence à l'école tout ça, hein. À l'école, on délègue aux maîtres le soin de nous enseigner, on délègue dans la santé le soin aux médecins de s'occuper de notre corps, on délègue sans arrêt, on nous apprend sans arrêt à déléguer, et le résultat, il est catastrophique. Hein. Comme le capitalisme, capitalisme version, comment on peut appeler ça, consumérisme, version mon bien-être personnel, ma petite entreprise personnelle, parce que le capitaliste qui connaît, lui, c'est que des individus qui sont des acheteurs et des jouisseurs. Donc côté jouissance, capitaliste encourage toutes les jouissances. Hein. Il faut manger le max de machin. On vous vend 12 paquets de yaourts quand vous en voulez deux. Eh bien, le capitalisme nous vend l'idée que ce qui compte dans la vie, c'est notre jouissance personnelle, c'est notre bien-être personnel, ce qui fait acheter et vendre. Hein. On abandonne notre pouvoir aux élus, qui font des catastrophes, comme a dit, hein, je ne fais pas un dessin, a dit 2 900 000 pour paver autour d'une église, vous m'excuserez, mais il n'y a pas besoin d'être chef de travaux pour comprendre que là, il y a un peu d'argent qui se balade, on ne sait pas trop où. 2 900 000 pour faire des plaques qui ne sont pas d'une très grande beauté, hein, c'est pas ce que font les Italiens, par exemple, avec du bon granit, hein, c'est pas terrible. Alors 2 900 000, moi je me demande comment peut-on dépenser des sommes pareilles juste pour paver une place autour de l'église. Pourquoi on a mis 9 hectares, a dit, de la meilleure terre agricole pour faire des céréales dont on aura besoin, a dit, avec le crash alimentaire qui s'avance? Pourquoi on a fait une zone industrielle où sur 330 entreprises contactées, il y en a 9 qui ont répondu présent? Pourquoi ils font des choses pareilles? Heureusement que les fouilles archéologiques ont interrompu ce pharaonique chantier local. Pourquoi ils démolissent l'immeuble? Ça y est, c'est fait, de la cocoserie dans laquelle nous sommes allés planter la Seine, une trentaine de pieds de tomates qui ont parfaitement fonctionné, que les gens ont mangé et qu'on aimerait bien réitérer, c'est-à-dire une de nos objectifs, c'est de développer la sécurité alimentaire et la prise de conscience de la population qu'il faut réapprendre à se nourrir, parce que ça va, d'abord c'est très cher le bio, ensuite leurs enfants deviennent allergiques ou cancéreux, hein. Et donc l'alimentation faisant 80% des maladies ou plus, il est vital de se renouvrir. Pourquoi en a-t-on démoli cet immeuble à cocoserie? Ces 3 immeubles étaient magnifiques, bien situés, beau cadre, isolés. On les avait isolés à grands frais. On en démolit un pour faire quoi? Pour agrandir le parking d'une scierie et le parking d'un supermarché. Non mais c'est n'importe quoi. Et donc on voit bien que les intérêts privés commandent chez nos élus locaux comme ailleurs, commandent les investisseurs privés. En clair, l'argent public va aux investisseurs privés qui font des ronds-points. Donc moi j'ai le record France là ici, où à Guérangrange on a un rond-point d'1,5 million d'euros, quoi, où la terre est complètement détruite pour faire un drive Leclerc, un drive Auchan, un énième Intermarché, un énième grande surface. C'est une horreur ce qui se passe. Et donc il est temps qu'on se bagarre. Bon, a dit, je sais que ça s'est bougé maintenant. Il est temps qu'on se bouge partout, puisqu'à Valence, la personne qui parle va dire « Ouais, elle donne des conseils, mais qu'est-ce qu'elle fait ?» Ben, moi, je suis dans le collectif Vive Campagne. On s'est bagarré pendant 2 ans et demi. J'ai fait à peu près 30 émissions de radio pour m'opposer courageusement, je pense, à un maire socialiste, hein, il faut le dire, parce que quand c'est la gauche, plus personne ne dit rien, alors qu'elle fait pire que la droite, souvent. Et je suis ni droite, ni gauche, ni parti, hein, puisque nous, on est mouvement société civile. Eh bien, on s'est bagarré, on a sauvé 60 hectares à Valence. À Saillant, ils ont sauvé leurs hectares à eux aussi, puisqu'ils n'ont pas voulu d'aucune grande surface. Ils ont sauvé le cœur vivant de Saillant. Eh bien, sur des bagarres comme ça qu'on peut rassembler la population, et c'est comme ça que peut naître la démocratie. Donc, réponse à ta question, si nous nous bagarrons dans des collectifs contre le TGV, contre le nucléaire, contre le Center Park, contre le grand stade débile de Lyon, nous pouvons rassembler des tas de gens qui ont compris que l'agriculture, ça crée de l'emploi. Je rappelle, hein, toutes les recherches INRA en France, un peu partout, montrent que sur 1000 m² de bonnes terres agricoles comme celle de Die, on peut créer un emploi au SMIC. 1000 m², c'est un hectare, c'est 10 000 m², donc 10 emplois à l'hectare de SMIC. 9 hectares, combien d'emplois, Die? Eh bien, 9 hectares, c'est 90 emplois qu'on aurait pu créer en faisant pour les cantines bio des régies municipales agricoles et maraîchères.
Voilà, je te remercie parce que moi je suis très très nul en maths, j'étais en train de stresser que tu me demandes la réponse.
Non, bien sûr que non. J'essaye de l'éducation populaire, c'est de rendre accessibles les choses quand on fait sur le plan magistral. Sinon, le mieux c'est de le faire sous forme de congesticulés, de jeux de simulation et autres formes. Hein. Moi j'anime par exemple le jeu de Lille. C'est un jeu pour comprendre l'économie sur lequel 95% des Français avouent ne rien comprendre.
C'est vrai.
Et quand vous avez fait le jeu de Lille, vous avez tout compris, mais ça dure une journée, pour 9 heures ça dure. C'est pour ça que je détaille un petit peu les choses, pour montrer que le savoir c'est pas bien difficile, un hectare c'est 10 000 m². Et bien sur 1000 m², vous lisez les bouquins de Dufumier, l'ingénieur agronome là, pour l'agroécologie, vous regardez le numéro dernier d'un très bon canard, il s'appelle L'écologiste. Eh bien, il vous détaille toutes les études qui, depuis 10 ans, montrent qu'un SMIC peut être retiré sur 1000 m², alors que mes copains producteurs bio de la vallée de la Drôme, eh bien, ils ont fait une calcul de combien ils gagnaient au total en comptant toutes leurs heures. Ils en sont à 400 à 600 euros pour faire des légumes dans la bio-vallée. Ils ne sont pas aidés par la région, vraiment. Nous, on avait proposé la Seine de rencontrer trois élus régionaux, une du Front de Gauche qui est de dit, c'est Corinne Morel-Darleux, un élu d'Europe Écologie, il s'agissait du paysan et élu régional qui est d'Ardèche, Olivier Keller, et puis je crois une socialiste aussi. Et nous avions mangé un soir et on avait proposé la Seine, tout doucettement, hein, ça fait partie de nos actions, il y a 3 ans, que la région compense au niveau du SMIC pour les agriculteurs bio dans le cadre de la préservation de la santé. Eh bien, ils nous ont dit que c'était pas possible, ben voilà, mais le fait est que dans la Val de Drôme, un maraîcher bio qui produit des très bons légumes sans mettre de saloperie, mais là je dis on fera un jour le scandale du cadavre de la Bourne que personne ne veut vraiment dénoncer, hein, parce qu'EDF met l'eau d'Isère dans l'eau destinée au bio. Alors bonjour le bio. Ben, les copains ils se font 400 et 600 euros. Donc ils laissent tomber.
Eh oui.
Il y a une déprise agricole énorme dans la Drôme. Personne ne veut parler de ça, disparition des terres agricoles, enfin pas personne. La conf paysanne tire la sonnette. On se gargarise qu'on est le premier département en surface en bio, sauf que on est aussi le premier département pour la fuite des agriculteurs, qu'ils soient bio ou pas bio, de ce département. Donc il est vital de soutenir nos agriculteurs, polyculture, de se défoncer contre l'agriculture industrielle comme la ferme aux 1000 vaches qui veut faire du méthane et de l'électricité avec le caca des vaches. En fait, c'est des industriels qui veulent faire du pognon sur notre santé, alors qu'il y aurait vraiment, vraiment à soutenir nos petits producteurs. Et la meilleure manière, nous, on pense, hein, la Seine, on n'a pas la science infuse, ce serait que dit, par exemple, au lieu de consacrer ces 3 millions d'euros à paver autour d'une église, consacre 3 millions d'euros à rapatrier les terres, à les racheter, comme a fait Mouansartou. On rachetait des terres agricoles, c'est 4 fois plus cher qu'a dit. Hein. Tout autour, c'est à côté de Cannes, hein, Mouansartou. Et c'est la cantine bio, la première cantine bio de France, 100% bio. 100% bio. Et comment ça marche? Eh bien, il y a des agriculteurs qui sont employés communaux, qui produisent des légumes dans un jardin communal. Ce jardin communal est équipé par la commune de Serres. Le logement est assuré, le SMIC est assuré. Et les légumes frais du matin, on regarde dans les serres ce qu'il y a à manger ou dans le terrain. S'il y a beaucoup d'épinards, on dit bah aujourd'hui, menu de la cantine des enfants du primaire et du collège, c'est des épinards. On ramasse les épinards à 7h le matin, 8h le matin. Ils vont à la légumerie communale, qui ensuite va à la cantine en régie publique communale. Et s'il y a trop d'épinards, eh bien, ils ont construit une petite unité de transformation pour conserverie épinards, conserverie ratatouille, conserverie. Donc ils transforment les choses. La conserverie les garde pour l'hiver et les enfants une alimentation 100% bio. Ben, je peux vous garantir que la santé des enfants de Mouansartou va faire un bond en avant dans 3-4 ans. On se rendra compte qu'il y a moins d'allergies, moins de cancers, moins de trucs. Et tout ça parce que la commune a mis du pognon dans le rachat des terres agricoles au lieu de donner son pognon à des investisseurs privés qui bétonnent et qui bitument.
Mais alors comment ça se passe? Je veux dire, ils vont pas se faire taper sur les doigts à un moment donné dans cette commune-là de refuser?
Non, Mouansartou, le maire est réélu depuis des années. C'était un maire plutôt écologiste hein, au départ, mais il est social. C'est-à-dire que le premier prix de repas 100% bio avec une fois de viande par semaine, c'est 2 euros. Quels sont les gens de milieu populaire qui ne seraient pas fous de voir que leur gamin bouffe bio pour 2 euros par gamin le repas? On est là, hein, parce que moi je connais des cantines de Sodexo complètement pleines de pesticides. Ce sont des plats tout cuisinés qui arrivent sous blister, fabriqués dans des usines où il y a 400 gus qui emballent ça. En plus le plastique, il y a migration des phtalates, des bisphénols dans l'alimentation quand on les réchauffe. C'est une horreur. Cette alimentation industrielle, eh bien elle est vendue, mais à des prix pharaoniques dans certaines cantines. C'est du 5 euros la cantine. 5 euros ou 6 euros même. Et alors que là, on a pour 2 euros, pour les milieux populaires, hein, ce quotient familial, 2 euros, votre gamin, il bouffe 100% bio. C'est pas beau, ça? Eh bien, ça se passe à Mouansartou. Il y a 6 000 et quelques habitants à Mouansartou, peut-être un peu plus même. Mouansartou, on s'approche de 10 000, donc c'est 2 fois 10, quoi. Eh bien, ce qui est possible à Mouansartou, le terrain est plus cher, il n'y a pas plus de revenus que dit, parce que ce qui va être vital aujourd'hui, c'est de l'alimentation saine pour tout le monde, pas seulement pour les bobos qui ont 4 000 euros par mois, qui peuvent se payer des, comme je vois là, ici à Satorise, où je vais de temps en temps, parce que c'est à côté de chez moi, donc je peux y aller en vélo. Je regarde, poivron rouge-vert à 6 euros le kilo, comment voulez-vous que les milieux populaires achètent des poivrons à 6 euros le kilo, les tomates à 5 euros le kilo, alors qu'on commence la production, quoi. C'est affolant. Donc, l'alimentation publique est un bien public, c'est pour la santé publique, c'est dans des réseaux locaux, c'est à portée de cheval, on peut faire de l'agriculture à traction animale, tout ça en périphérie des villes, ben c'est ce qu'on propose pour Valence sur les 60 hectares. C'est loin d'être gagné parce que maintenant, bon, on a une municipalité qui ne va pas plus nous écouter que l'autre, je suppose, enfin je sais pas, j'en sais rien. Il paraît qu'elle aurait voté avec les Verts contre la destruction des terres agricoles. Bon, on verra bien. Pour l'instant, notre association, elle est requise pour gérer un jardin pédagogique de plusieurs milliers de mètres carrés au centre-ville de Valence, j'en suis très content. On va faire toutes les animations pédagogiques autour d'un rucher pédagogique qu'un des jardiniers a, et on va faire des animations avec les enfants du centre de loisirs et même de la crèche, 3 ans, mais aussi les habitants du quartier. Et le but, bah, c'est de faire découvrir comment il y aura un lieu de biodiversité exceptionnel, hein, une zone humide incroyable avec les canaux qui arrivent du Vercors, arrivent de chez vous là-bas. En plus, on va essayer de montrer quelques techniques culturales, mais montrer aux gens qu'avec un sac en jute, ils peuvent faire des fraises et des tomates sur leur balcon pour pas cher, simplement en allant chercher du compost dans les bois, enfin du terreau dans les bois. Voilà, on va essayer de faire des animations diverses et variées qui déboucheront sur la fête de la courge qu'on fait chaque année maintenant avec la MJC du Grand Charan en novembre. Eh bien, dit pourquoi les assos, il y en a de nombreuses. Une fête de la courge, ça veut dire on plante des courges partout dans la ville, on plante des topinambours, ben, c'est ce qu'on avait proposé à Cray, et on composte que du propre et du bio. Hein. Enfin, il ne s'agit pas de composter des bananes pesticidées au chlorodécone hein, qui ont mis le cancer à plein de réunionnais. Mais on fait des bons composts et on commence à faire des fêtes où on donne gratuitement une courge à chaque famille, si possible des milieux populaires, et les gens vous présentent 20 variétés de gratins, 20 variétés de soupes, 20 variétés de confitures. Les gens dégustent et on comprend qu'on peut s'assurer localement une autonomie à condition d'avoir un régime démocratique. Et pour revenir à ta question, ben, je ne sais pas ce qui se passe à Die, parce que j'y habite pas et que la Seine n'a pas encore de groupe à Die, hélas. Et que, ben voilà, on n'est pas du tout à Die encore dans l'idée de faire gérer Die par eh ben, le cinquième de la population à Saillant. Die, 4000 habitants, ben, ça serait 5 fois 4, 20, ça serait minimum 300-400 personnes qui géreraient Die. C'est tout à fait possible. Vous prenez par quartier, vous dites aux gens, voilà, il y a tant de millions d'euros. Tiens, on leur dirait, voilà, il y a 2 millions d'euros, on voulait paver autour de l'église, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait en faire de plus utile? Ben, je vais autant vous dire que les gens viendraient aux réunions et discuteraient sec, hein, ça s'appelle le budget participatif. On essaye de lancer ces idées, cela dit, ça progresse hein, quand même. Je vois en Ardèche, ici, puisque nous on est à la fois Drôme, Ardèche, Rhône, hein, Isère et compagnie, je vois que ces idées avancent fortement parce que le film qu'on propose un petit peu partout, on a fait une cinquantaine de débats avec ce film, qui s'appelle « La ville est à nous », ben, on l'a fait à Die, on l'a fait à Saillant, donc bien avant les événements. On l'a fait en Ardèche, à la Masre, à Nonnet, un peu partout. Ce film secoue énormément ceux qui le voient. Quoi. Ils voient qu'il y a 120 000 personnes qui ont fait le budget de Porto-Alegre, 1 800 000 habitants. C'est-à-dire que la ville comme Lyon a été gérée par 100, 120 000 personnes. Et ils expliquent comment ils ont démarré ce budget participatif. Il faut effectivement qu'il y ait des gens, des militants, des associations qui soient tout à fait décidés à lancer le truc. Ben, ça se lance comment? Par l'enquête action, ce qu'on a fait sur les HLM à Auteuil et à Bourg-Saint-Andéol, mais sans grand succès, je veux dire, au niveau des retours. On filme les endroits où ça ne va pas. On peut filmer la démolition de l'immeuble à Cocoserie, on peut filmer ce fameux terrain en disant « regardez comme les beaux blés qui pourraient lever ici ». Et puis ensuite, on passe dans les quartiers, les films qu'on a faits sur les endroits où ça ne va pas. On va chez les gens, les HLM avec des WC bouchés depuis un mois. Et puis on passe les films très courts dans des AG locales, c'est-à-dire de quartiers ou de villages. Et les gens doivent s'exprimer là-dessus. Et petit à petit, on dit, voilà, on envoie des délégués à un conseil communal de gestion du budget. On peut le faire en parallèle aux communes existantes, hein. Et ensuite, elle se pointe au conseil municipal et dit « Non, non, on ne veut pas 2 millions d'euros pour ça, on veut 2 millions d'euros pour ça. » Voilà ce que nous proposons dans ce qu'on appelle le pratique, projet résilient et alternatif de territoire d'initiative citoyenne. C'est-à-dire que les gens fassent des enquêtes, filment, en associant les associations, en associant les mouvements, les syndicats, notamment paysans, pour que on propose des alternatives dans les conseils municipaux. C'est ce que j'ai fait moi-même au conseil municipal de Valence à plusieurs reprises et qui a fait beaucoup rire les gens parce que je prenais la parole en plein conseil municipal. Mais pourquoi on le fait pas un peu partout, mais en ayant élaboré ensemble des contre-propositions.
Bah parce qu'il
ici,
paraît.
on a commencé tout doucement la bagarre, parce que Cornas allait très bien, jusqu'à ce qu'ils aient décidé, sans réunir ma commission environnement, de sacrifier encore 5 hectares pour faire un lotissement. Quand on sait ce qui se passe dans les lotissements, bah c'est à pleurer. 5 hectares pour Cornas, quoique ils aient classé toutes les terres agricoles en zone agricole protégée. C'est la première commune de l'Ardèche. Mais parallèlement, ils ont commis le péché de vouloir le faire plaisir aux classes moyennes de Valence en laissant 5 hectares filer en lotissement. Chacun ses 300-400 mètres carrés, sa petite villa, son petit mur. Ici, c'est une horreur. Si vous regardez les lotissements, c'est des murs de 2 mètres de haut. Vous ouvrez vos volets, voyez votre mur, alors qu'il y a le Vercors en face, qu'il y a Crussol, c'est magnifique de ma maison. Là, je vois Crussol, ma maison à 100 000 euros, hein, en parenthèse. Je vois Crussol, c'est un coin, mais sublime. On voit le Vercors derrière lequel vous êtes. Eh bien, ceux qui montent leur mur, là, ils ne voient rien du tout, parce qu'ils ont des murs d'un mètre 80. Je dis cette hauteur, parce que comme je fais 1m83, je regarde toujours si les gens font des tomates, des trucs, et là, je ne peux plus regarder parce que les murs sont plus hauts. Non, c'est affolant. Comme ils viabilisent, ben, c'est tout aux frais de la collectivité. Alors, vous me direz, ils se récupèrent en la revendant un petit prix. Mais c'est pas normal de faire ça, quoi. Il faut absolument qu'on intervienne. Donc, la scène, c'est éducation populaire, société civile, essayer de mobiliser la population. Et ben, tu as raison, on ne peut pas dire qu'on arrive à mobiliser une ville comme Lyon avec quelques dizaines d'adhérents. Ça, c'est sûr qu'il faut qu'on s'associe tous. Mais la crise devient tellement grave qu'il y a d'une part l'opportunité de mobiliser, d'autre part l'opportunité de faire autre chose. En fait, quand s'accroissent les périls, naît aussi ce qui nous sauve.
André, Duny,
en fait,
André.
L'association des gens, quoi.
André, écoute, parce que là, on avance dans l'heure, et puis non seulement d'une part c'est très intéressant, alors on pourrait, je pense, t'entendre disserter encore longtemps sur toutes ces questions qui, j'espère, touchent la plupart des gens, et en tout cas nous, sur RDOA, ça fait partie de nos discours assez réguliers. Il faudrait donc évidemment un appel comme ça, adhérer à ce genre de démarche, aller réfléchir, etc., etc., se lancer dans les conseils municipaux, comme tu le disais, même si prendre la parole, c'est encore illégal quand on n'est pas conseiller municipal. Je tenais quand même à le préciser. Voilà, c'est ça, on peut toujours quand même le faire et il n'y a pas de raison. Concentrons-nous un petit peu sur ces rencontres d'été de la Seine, justement, puisque c'est aussi pour cela que nous t'avons au téléphone, à Saint-Laurent-du-Pape du 11 au 14 juillet 2014. Alors là, vous avez proposé 4 journées avec diverses choses. Est-ce qu'on pourra avoir un petit éventail de ce qui va se faire, André, s'il te plaît?
Ah bah avec grand plaisir, hein, puisque ça s'appelle « Tout reconstruire ensemble depuis le bas ». Ça dit ce que ça veut dire. Le « ensemble » ici, il s'agit bien de la société civile. Bon, tout le monde parle de transition. Bah, quelle transition? Ça va être l'interrogation de la journée qui est le vendredi 11 juillet. Il y a à peu près 10-12 ateliers en parallèle.
Ces ateliers,
si tu veux, il y aura un atelier, le mystère de l'énergie et de sa conversion, par exemple, avec Jean-Claude. Jean-Claude, il est ingénieur en énergie. Il y a un atelier eau chaude solaire et solaire photovoltaïque. Donc ça, c'est Peter, c'est mon copain Peter, est à la Seine. Il a créé une coopérative ouvrière de production. Il y a sans doute une démonstration de petits éoliens. Mais là, on a des soucis parce que les deux associations éoliennes sont très prises pendant cette période. Il y a Village Autonome en énergie, ça c'est nos amis de CRI-AC qui veulent lancer dans la région Rhône-Alpes une démonstration d'un village autonome en énergie renouvelable. Il y a un atelier autonomie énergétique vu par la Seine, il y a un atelier sortir du nucléaire, stop Tricastin, il y a un atelier anti-gaz et huile de schiste, il y a Ville en transition de Totnes à la France par Madeleine, qui est l'ancienne directrice de rédaction de Silence, et François, qui est ingénieur en énergie solaire. Enfin, il y aura les coopératives intégrales, ça c'est David, un autre gars de la Seine, qui est très intéressé par l'idée de coopérative intégrale. C'est un système intermédiaire entre les énergies, on va dire, citoyennes, avec des actionnaires, des cigales, des coopératives d'investissement, et la régie municipale qu'on prône un peu plus à la Seine. Le samedi, c'est la journée sur l'autonomie alimentaire, hein, alimentation et agriculture urbaine, périurbaine, saine et socialisée. C'est le nouveau rapport de la ville et de la campagne, avec des ateliers collaboratifs autour du jardin pédagogique dont j'ai fait allusion. C'est technique et philosophie de la permaculture. Alors là, de dit, il y a l'école de la nature et des savoirs qui viendront nous donner un coup de main dans cet atelier. Nous ferons une démonstration sur les sacs, buts, lasagnes, culture en carré, bombes à graines, BRF, guérilla potagère.
Ah ouais, la
eux,
pompe à graines.
Une association des plantes compagnes. Voilà les, quelques idées de, d'ateliers, découverte des plantes sauvages, BRF avec l'association BRF Avenir et tout ça. Et puis la troisième journée, c'est dimanche, j'en ai dit un mot, c'est démocratie directe territoriale avec cette fameuse conférence gesticulée le matin et l'après-midi, plein d'ateliers, la propriété, l'argent enchaîne un cercle vicieux, voilà, la propriété et le pouvoir. Ensuite, démocratie directe locale, l'exemple de Saillant, boîte à outils pratique, atelier mobiliser la population, voilà. Et puis enfin, le dernier jour, c'est culture et éducation populaire. Et ça, ça vous intéresse? Il y aura les médias citoyens de Lyon. On fait un atelier éducation populaire et radio associative locale. On fait un atelier sosie, comment monter un festival avec plus de 40 associations locales. C'est dans un patelin grand, comme dit, où il y a 52 associations qui ont été partie prenante avec la MJC pour monter un festival qui s'appelle Un autre monde. Donc on va essayer de faire partager les mystères de cette participation citoyenne de masse. Et comme la nouvelle municipalité a sucré les crédits, et ben, il y a eu une insurrection générale, ils viennent les remettre. C'est tout chaud, c'est de ce matin. Donc vous voyez, quand on associe les gens à la démocratie culturelle, ben, les gens ils vont dans la démocratie politique et lycée de Versailles. Lecture publique d'un livre de mon copain Joël Fedel, qui était l'ancien trésorier de la Seine, c'est Joseph Maquisard des Hautes-Terres, c'est sur la résistance en Ardèche et les traces que ça a laissées dans les consciences populaires qui aujourd'hui doivent et peuvent peut-être se réveiller devant le réchauffement. Hein. Comment s'entraîner à la prise de décision en groupe, écologie sociale ou écologie environnementale, c'est la discussion entre deux adhérentes de chez nous qui s'engueulent copieusement, l'une voulant absolument des zones sauvages partout et l'autre disant mais l'homme fait partie de la nature, il faut peut-être aussi voir comment on le réintègre là. Voilà, du local à l'international, ça c'est solidarité et convergence dans les luttes. C'est Jean Roy, c'est un gars qui est à la fois à la scène et à survie. Donc lui, il dit la dimension internationale est pas assez présente à la scène. Vous avez une vision globale, mais vous n'agissez que localement. Voilà, on se fait engueuler parce qu'on agit que localement, et c'est un peu vrai. Voilà.
Et André, juste, j'ai essayé de te couper tout à l'heure, mais pour revenir 5 minutes sur la conférence gesticulée, c'est quoi ça?
Alors, écoute, ça c'est un type qui s'appelle Sylvain Rochex, qui a fait un buzz sur YouTube. Il a présenté sa conférence, ça a eu 300 000 visites, je ne sais pas combien. Et Mathilde, et c'est Sommes-nous en démocratie, se présente sous la forme d'une conférence théâtralisée dans la veine de l'éducation populaire. C'est une sorte de dialogue socratique avec un patient, c'est plutôt une patiente, qui incarne le peuple et qui pense que voter, bah, c'est faire acte de démocratie fondamentale. Et son médecin, qui est un psychanalyste et philosophe, comme toutes les patientes, elle cherche à comprendre et à soigner sa pathologie, qui est pourquoi je fais rien entre deux tours d'élection, je laisse faire le pavage à 2,9 millions d'euros, je laisse faire le rond-point de Guirand. C'est mon cas, hein, je me suis pas abattu parce que quand je l'ai vu arriver, c'était trop tard. Un rond-point d'1,8 million d'euros, bon, c'est vrai qu'on est des fois sur plein de terrain. Et voilà, c'est une sorte de mise en scène médicalisée d'un rapport entre un médecin et son malade. Alors le médecin très habilement essaye de soigner l'addiction à la dépossession de pouvoir de sa patiente. En fait, nous sommes tous en procrastination. Procrastination, ce qui veut dire qu'on remet au lendemain des prochaines élections ce qu'on préfère le jour même entre deux élections, c'est-à-dire se bagarrer pour que dit soit agréable à vivre, non seulement aux très sympathiques bobos qu'on y croise, qui ont quand même des bons revenus ou qui habitent occasionnellement à dit, mais que l'ensemble des milieux populaires puissent vivre comme vivait dit il y a quelques années, où dit il y a une tradition extraordinaire, moi j'adore cette ville, quand vous voyez le nombre de jardins, comme ils peuvent être facilement arrosés, et qu'on voit que 5-6 hectares sont partis dans un camping à Bobo avec des gros camping-cars à 100 000 euros, j'en suis malade. Voir Soudi, ce qui nourrissait les habitants, c'était qu'ils avaient tous leur jardin avec de l'eau dedans. Et bien maintenant, on a des trucs pour les touristes. Ben, y a peut-être une autre façon d'accueillir les touristes, mais ça, on en parlera plutôt à l'automne. C'est comment accueillir la misère du monde dans les campings municipaux. Ça, c'est une autre rencontre qu'on fera sans doute cet automne ou peut-être ce printemps, je ne sais pas trop. Ça s'appellerait « Comment se loger et comment habiter au temps des fractures sociales et des fractures écologiques ?» Et puis, il y aura une journée « Comment faire face ?» à la crise globale du logement, à l'insalubrité de la masse des logements, la non-isolation, avec des solutions locales. Alors j'ai déjà parlé de Montdidier, hein, pour l'isolation de double vitrage. sur des finances communales, il y a peut-être des solutions au niveau camping. Moi, j'ai vu des campings communaux où on accueillait dans des yourtes d'occasion à 3 000, 4 000 euros, ce qui n'est pas hors de prix, des gens qui étaient dans la merde, y compris des Roms, en mélangeant les populations avec de l'eau chaude, de l'électricité, du gaz, et ça ne coûte pas une fortune, avec un petit loyer, et en échange de la paix publique, ben, pour faire des travaux. Voilà, il y a peut-être des solutions, au lieu de chasser 15 ou 20 000 Roms à travers toute la France, en disant qu'ils menacent la paix et la sécurité publique de 60 millions de Français, je rappelle, hein, il y a 18 000 Roms en France, et c'est des ennemis publics, désignés comme tels d'ailleurs par un premier ministre de gauche, là il y a de quoi se taper le cul par terre, et bien justement, il a peut-être possibilité d'accueillir d'une façon assez mixte, on ne va pas mettre que des Roms dans le camp de camping de Dodi, on n'est pas là, on ne va pas chasser les... Mais on pourrait trouver des solutions mixtes, comme j'ai vu par exemple à Rosens ou dans d'autres endroits où des petites mémées qui n'ont pas beaucoup de revenus, hein, qui ont le minimum vieillesse à 600 euros, ont un petit loyer, hein, et dans une mobil-home bien isolée, peuvent passer l'année dans des conditions avec un petit jardinet qui sont tout à fait compatibles avec la dignité humaine, hein, c'est pas de les mettre dans des cabanons.
André, voilà. Merci pour toutes ces descriptions. Je comprends les autres administrateurs de la Seine qui te disent doucement, doucement, parce que l'éducation, fût-elle populaire, c'est aussi la répétition. Et si on va trop vite et qu'on abreuve trop les gens, peut-être qu'ils vont finir par décrocher. Alors en tout cas, tu étais là pour nous parler des rencontres d'été de la Seine 2014. Ça, c'est celle qui nous intéresse tout de suite, du 11 au 14 juillet. On va donner les heures, c'est de 9h30 à 22h30, sauf le 14 juillet.
Et alors le soir, j'ai oublié de te le dire, Baptiste, le soir, c'est des débats, hein, le grand débat de vendredi soir. C'est avec l'ancien directeur de l'Âge de Fer, avec un gars d'attaque qui a fait un super bon bouquin, là, Henri Pérouse, Subir ou Agir, un directeur de Scope ouvrière de production. Enfin, il y aura du beau monde. Ce soir-là, c'est ouvert à tous. Et il y a une fête avec un groupe de musique reggae.
Le 13 juillet.
Et une projection sur sable de la part de notre ami David, hein, à la scène, qui fait des spectacles géants sur sable, avec sable. Donc ça, c'est le dimanche soir. Donc si des gens de dit ne savent pas trop quoi faire entre le feu d'artifice qu'ils ont vu le samedi soir ou qu'ils iront voir le lundi, eh bien, ils peuvent venir le dimanche profiter de la démocratie et aussi d'une petite fête qui sera super intéressante. Et de 5 à 7, j'ai oublié de te le dire, il y a des ateliers de création. Il y a un atelier couture, un atelier percussion, un atelier d'écriture, un atelier art plastique, où les gens se délassent un peu des deux ateliers qu'ils auront fait dans la journée, mais en même temps créent quelque chose qui sera sans doute remis en scène si j'arrive à trouver un petit financement pour une de tes copines, de Di, qui nous propose cela, mais qui est une pro et que, bon, là, on a un peu explosé notre budget, on ne sait pas trop si on va pouvoir le faire, c'est-à-dire mettre tout ça en scène en préalable à la fête du dimanche soir, hein, là, pour couper un petit peu ces 4 journées intensives.
Voilà, donc on parle de Aurélie qui peut-être viendrait vous animer.
Oui, oui, oui. Ah, moi j'aimerais tant la récupérer, mais bon, il faut aussi, tout n'est pas gratuit, hein, on essaye de rétribuer l'orchestre, on rétribue un petit peu ceux qui nous viennent nous faire à bouffer, hein, c'est les guerriers de l'arc-en-ciel, hein, la marche du vivant. Ils nous feront une bouffe 100% bio avec les légumes, les délicieuses compotes de caracol de sucre, qui est la ferme autogérée sur laquelle on est installé. Voilà, dans l'agriculture, d'ailleurs, j'ai oublié de signaler qu'il y aura un atelier sur les fermes coopératives, hein, avec la ferme des 4 routes, où ils sont 4 coopérateurs, et la ferme de caracol, où ils sont 12 à produire dans des conditions un peu difficiles, mais ils ont acheté des terrains sur les portes d'Hérieux, et là, c'est quand même plus facile.
André Duny, toute cette programmation est à retrouver évidemment sur le site internet de la Seine, rencontre.la-seine.org. Rendez-vous donc les 11, 12, 13 et 14 juillet à Saint-Laurent-du-Pape en Ardèche. Merci André Duny pour cette présentation. À la prochaine pour les prochaines rencontres, hein, donc s'il y en a en octobre, enfin je veux dire à l'automne ou au printemps prochain. On arrive au terme de cette interview. Je te remercie encore une fois d'utiliser Radio Diwa pour promouvoir un petit peu vos actions.
À très bientôt, merci beaucoup.
Interview. Okay, the bird. Interview. L'interview du jour.